Chapitre 9. Fendant l'onde, le randonneur des vagues voguait vers le sud sans qu'on aperçoive une ligne de côte à l'horizon. Après avoir passé si longtemps à moisir dans une cellule du palais des prophètes, Nathan était familier de ce genre de situation. Au moins, il se trouvait en plein air, le visage battu par le vent. Dans son dos, Tanimora n'était plus qu'un souvenir. 1000 ans de souvenirs, plutôt. Mais l'heure avait sonné de s'en faire de nouveau. Si Rouge lui avait volé son passé, un nouveau livre de vie attendait de se remplir avec ses aventures. Depuis la disparition de son don de prophète, l'avenir était pour lui une mine de surprises, et il s'en félicitait. Le capitaine et son équipage savaient pousser le navire dans la bonne direction, même quand le vent était contre. Aguerris, les matelots comprenaient la façon dont les voiles et le gréement travaillaient ensemble. Aux yeux de Nathan, leur façon de déplier ou de ramener la voilure selon les besoins tenait de la magie. Pourtant, c'était en réalité une science intuitive pour la plupart de ces hommes. Presque tous les marins accompagnaient Ellie depuis longtemps, et ils savaient exactement que faire. À l'exception des 5 tatoués, qui ne fichaient jamais rien. À force de les regarder paresser, Nathan perdit tout respect pour eux, pas seulement parce qu'ils reluquaient Nietzsche. Sans jamais se mêler à l'équipage, il restait indifférent à tout. Pourtant, il devait bien avoir une utilité, sinon Ellie les aurait fait jeter par-dessus bord. Mais pour l'instant, c'était des parasites. Petit dernier sur le randonneur, Bannon Farmer écopait des pires corvées. Jeter les restes de nourriture, pomper l'eau de la cale, briquer le pont avec une serpillière et un seau d'eau salée. Bizarrement, il s'acquittait de tout ça avec un sincère enthousiasme. Souvent, Nathan le regardait escalader le mât central pour aller remplacer la vigie ou faire des acrobaties dans le gréement quand il fallait libérer une voile. Dès qu'il en avait terminé avec son travail, le jeune homme venait rejoindre Nathan et le bombardait de questions. Comme ce soir.
« Vous avez vraiment vécu 1000 ans? Que de choses extraordinaires vous avez dû faire ?»
Nathan tapota le livre de vie posé près de lui.
« Je m'intéresse plus à ce que j'ai encore devant moi, fiston. Mais si tu me racontes les tiennes, je veux bien te faire profiter de mes histoires. »
Bannon se décomposa.
Des histoires, je n'en ai pas. Il ne m'arrive jamais rien.
Il passa les doigts sur les blessures presque guéries de son visage.
Pourquoi ai-je fui Chiria, d'après vous? J'étais comme un coq en pâte là-bas. Un foyer accueillant, des parents affectueux. Mais pour un type comme moi, c'était bien trop calme.
Bannon sourit pour ponctuer cette série de demi-vérités.
Au printemps, je plantais des choux. Pendant l'été, je désherbais les champs. En automne, je récoltais la production. Et en hiver, j'aidais ma mère à faire des conserves. Aucune chance de vivre des aventures.
Il leva le menton.
Mon père a souffert de me voir partir parce qu'il était très fier de moi. Qui sait, un jour je reviendrai peut-être au pays riche et célèbre.
C'est possible.
Fit Nathan, pas convaincu par les propos du jeune homme. Quand il venait voir le sorcier, Bannon apportait toujours son épée. L'acier n'avait pas fière allure, mais le tranchant semblait correct.
« Je suis sûr que Soline me servira bien. »
Le jeune homme semblant avide de conseils, Nathan décida de ne pas le décevoir.
« Une arme est un outil. Son propriétaire doit savoir s'en servir. Et la servir aussi. C'est réciproque. »
Le vieil homme dégaina sa propre épée pour admirer la poignée ornementée, les incrustations d'or sur la garde et l'éclat particulier de la lame en acier hors de prix. À ses yeux, cette arme le faisait paraître brave et chevaleresque, un guerrier autant qu'un sorcier, bref, un homme de poids. Se levant, il regarda les rayons du soleil jouer le long du tranchant.
« Fiston, sais-tu utiliser ton arme ?»«
Je sais frapper, oui. »
Il ne s'agit pas de couper des choux. Que ferais-tu contre un guerrier sanguinaire de l'ordre impérial? Ou pire encore, face à une horde de demi-humains cannibales des terres noires?
Je suis sûr de pouvoir en tuer au moins 5 avant de succomber.
Seulement 5? Il faudra que je me charge des 1000 autres.
Nathan fléchit les poignets, puis plia souplement les genoux.
Si on s'entraînait ensemble, je ne cracherais pas sur un bon partenaire. Au passage, je t'apprendrai quelques bottes, histoire que tu abattes 15 demi-humains avant qu'ils te dévorent.
Bannon sourit aux anges.
J'adorerais ça.
Il se rembrunit, confus.
« Pas être tué, bien sûr, mais accomplir un exploit si je dois un jour participer à une grande bataille. »
« Tes frères d'armes t'en seraient sûrement reconnaissants, fiston. »
De la main gauche, Nathan se massa le menton.
« Malgré mes 1000 ans, je suis un aventurier débutant. Une épée confère une certaine prestance à un homme, non ?»«
Votre épée est très belle, »
concéda Bannon.
« Mais une arme de qualité et de la prestance, est-ce suffisant pour effrayer une horde de monstres ?»«
J'imagine que non.
Cet entraînement pourrait nous être profitable à tous les deux.
« Veux-tu que nous apprenions ensemble, Bannon Farmer ?»
Nathan fit quelques arabesques dans l'air avec son arme.
Rayonnant, Bannon se mit en garde, enfin, selon l'idée qu'il se faisait de l'escrime.
Quand Nathan frappa, son jeune adversaire para latéralement, mais le sorcier dut modifier la trajectoire de son coup pour que leurs lames se percutent. Puis il attaqua de nouveau et cette fois toucha la lame de son adversaire. Vexé, Bannon se déchaîna.
« Serais-tu un bûcheron qui essaie de raser une forêt ?»
railla le sorcier.
« Non, j'essaie juste de tuer 1000 ennemis. »«
Un objectif ambitieux. Essayons une combinaison de frappes, de parades et de contre-attaques. »
Bannon se lança de nouveau dans une gigue frénétique qui ne posa aucun problème à Nathan, pourtant loin d'être un grand escrimeur. Au combat, il se fiait à la magie, pas à sa lame. Désireux de donner une leçon au jeune coq, il fit ce qu'il fallait pour percer sa défense et lui flanqua un coup sur les fesses avec le plat de son épée.
Bannon cria et rougit tellement que ses taches de rousseur disparurent.
« Vous me paierez ça, sorcier !»«
À crédit, sur 10 siècles !»
riposta Nathan.
« Avant de pouvoir me forcer à cracher au bassinet, il te faudra du temps !»
Quelques marins désœuvrés assistaient au duel.
« Regardez notre fermier, ce petit chou !»
lança Karl. Vétéran de plusieurs voyages, il avait pris en charge la formation de Bannon.
« Oui, regardez-le !»
répliqua Nathan.
« Bientôt, il vous fera trembler de trouille !»
Bannon attaqua de nouveau avec une fureur qui déconcerta le sorcier et lui fit même un peu peur. En esquivant et en parant, il lança «
« L'enthousiasme, c'est bien, fiston, mais le contrôle, c'est encore mieux. Refaisons tout ça lentement. Regarde-moi et imite mes mouvements. »
Une heure durant, les deux hommes s'entraînèrent sous le soleil de la fin d'après-midi. Après une série d'exercices de base, excellents pour la fluidité, Bannon prit confiance en ses compétences. Souriant, les yeux brillants, il accepta de bon cœur de repasser à une vitesse normale. Attirés par les cliquetis d'armes, presque tous les marins approchèrent. À bout de souffle, Nathan finit par demander grâce.
« Fiston, tu en as assez appris pour un seul jour. Il est temps de te laisser assimiler ces nouvelles connaissances. »«
Et avec un peu de chance, tu ne t'apercevras pas que je suis épuisé. »
Lustré de sueur, Bannon ne semblait pas décidé à arrêter.
« Si nous passions un petit cours d'histoire, suivi de quelques récits de mon cru, »
proposa le sorcier.
« Un bon escrimeur a aussi un cerveau. »
Bannon ne baissa pas son épée.
« En quoi l'histoire m'aiderait-elle à mieux me battre ?»
Nathan eut un sourire supérieur.
« Je pourrais te raconter les déboires d'un mauvais escrimeur qui se fait couper la tête. Une bonne idée, non ?»
Bannon s'essuya le front et s'assit sur un rouleau de corde.
« D'accord, je vous écoute. »
Nietzsche décida de passer la journée à la poupe dans la grande salle des cartes du capitaine Ellie. Grâce aux deux hublots ouverts au fond de la pièce, on y était agréablement au frais. Dans le sillage du randonneur, les longues lignes d'écume blanche lui rappelèrent les roues que Jagang avait fait aménager dans tout l'Ancien Monde. Mais alors que ces voies survivraient très longtemps à l'empereur, les traces laissées dans l'eau appartenaient au royaume de l'éphémère.
« Je voudrais étudier vos cartes, »
dit Nietzsche au capitaine.
« En tant qu'émissaire du seigneur Hall, je dois connaître les limites de l'Ancien Monde, telles que conquises par l'ordre impérial. Aujourd'hui, ces régions font partie de l'Empire d'Aran. »
Ellie prit sa pipe et tapota le foyer contre un coin de la table.
« Beaucoup de capitaines gardent secrètes leur route maritime. » Pour un négociant, la vitesse, ça vaut de l'or. Jadis, je connaissais si bien les courants, les récifs et toutes les côtes.
Pensif, le capitaine mâchouilla sa pipe,
mais il ne l'alluma pas. Ici, ça aurait été dangereux, une simple escarbille suffisant à embraser les cartes.
« Mais ça n'a plus d'importance, je suppose. »«
Capitaine, je ne suis pas votre concurrente. Les cartes maritimes ne m'intéressent pas. Je veux connaître les côtes et les terres. Avec mon compagnon, nous cherchons un endroit nommé Colladère. » »«
Je n'en ai jamais entendu parler. Ce doit être très à l'intérieur des terres, et tout ce qui est loin d'une côte ne compte pas pour moi.
Mais ce que j'ai dit tout à l'heure... Eh bien, ça n'avait rien à voir avec une concurrente. Ce que je savais ne vaut presque plus rien parce que les données ont changé. Tout est différent.
Depuis 2 mois, les courants se sont réorientés et les mouvements des vents sont bouleversés, comme si les saisons se mélangeaient.
Ellie grogna de dépit.
La nuit, les étoiles ne sont plus à la bonne place. Comment suis-je censé naviguer? Mes astrolabes et mes sextants ne servent plus à rien. Et ma carte des constellations... Douce mère, la mer, je ne sais même pas si les compas désignent toujours le nord. Je me dirige à l'instinct.
Nietzsche ne fut pas étonné par ce compte-rendu.
C'est un monde nouveau, capitaine. Les prophéties n'existent plus. Et la magie s'est transformée dans des proportions qui nous dépassent.
La magicienne se tourna vers le capitaine et inspira à fond au moment où une douce brise pénétrait par les hublots.
Quelqu'un doit commencer à établir de nouvelles cartes stellaires, à recenser les nouveaux courants et à découvrir les meilleurs endroits où jeter l'ancre. Vous pouvez être un de ces hommes, capitaine.
Ce serait merveilleux si je me prenais pour un explorateur.
Ellie gratouilla son collier de barbe.
Mais j'ai toujours eu l'ambition d'être un capitaine de navire commercial, qui navigue d'un port à un autre. J'ai des familles à entretenir, beaucoup d'enfants. Je les vois déjà assez peu comme ça. Mon souci, c'est d'arriver à l'heure.
Des familles ? Répéta Nietzsche. Vous en avez plusieurs ?
Bien entendu.
Ellie se passa une main dans les cheveux, ramenant en arrière une mèche argentée vagabonde.
À Tanimura, j'ai une femme et 2 enfants. À Larricane-sur-Mer, une épouse plus jeune et 3 fils. À Serimundi, je suis marié à la fille du seigneur du port.
Ces personnes se connaissent? Les autres capitaines font-ils comme vous?
Je m'occupe de chaque famille à son tour au gré de mes voyages. Toutes mes compagnes ont une jolie maison et mes enfants ne manquent de rien. Les marins et les capitaines, en général, fréquentent les bordels. Beaucoup de mes collègues y attrapent des maladies honteuses qu'ils transmettent ensuite à leurs femmes. Mais ça, c'est pas pour moi. J'ai choisi mes compagnes et je leur suis fidèle. Un type honorable, quoi.
Songeant à toutes les femmes que Jagang avait prises, y compris elle, pour les envoyer ensuite servir sous les tentes, en d'autres termes se faire violer par ses soldats, Nietzsche ne se sentit pas le droit de juger le capitaine. Depuis toujours, elle n'éprouvait aucune envie d'être l'épouse d'un homme, et encore moins une de ses épouses. Sauf à l'époque où elle avait forcé Richard à jouer le rôle de son mari. En lui faisant mener une parfaite vie de couple, elle avait cru pouvoir le convertir à la philosophie de l'ordre impérial, une manœuvre mensongère qui lui avait longtemps valu la haine du sourcier. D'instinct, Nietzsche tapota sa lèvre inférieure, là où aurait dû se trouver la cicatrice de l'anneau d'or de Jagang. L'avantage de contrôler le don de guérison. Son utopie familiale avec Richard, s'avisa-t-elle soudain, avait été une forme de folie, comme le monde idéal imaginé par Bannon Farmer. Mais elle n'avait plus rien à voir avec la Nietzsche de ce temps-là. Après qu'elle eût été une sœur de l'obscurité pendant des années, Jagang l'avait réduite en esclavage et remodelée, mais de la mauvaise manière, jusqu'à ce que Richard change tout ça. Aujourd'hui, il était clair qu'elle lui devait sa métamorphose, une dette dont elle ne s'acquitterait jamais, même si elle remplissait sa mission.
« Voyons quand même vos cartes, » dit-elle en revenant au présent. « Plus j'en saurai sur l'ancien monde, mieux je servirai le seigneur Rall. »
Le capitaine déroula sur la table une carte qui montrait la ligne de côte très loin au sud de Tanimura.
« Voici nos escales majeures. Le port de Lefton, Kerimous, Andalio, Larricane et Serimundi. Grâce à mon épouse, j'y ai un accord spécial avec le seigneur du port. »
Il sourit à l'évocation de la belle. Scrutant la carte, Nietzsche n'y vit nulle part Colader.
Et plus au sud? Cette carte est incomplète.
Personne ne s'aventure plus loin au sud, qui ferait-on? C'est la côte fantôme, largement inexplorée, même si des voies impériales s'y enfoncent.
Élie tira à sec sur sa pipe, la posa et s'essuya les lèvres.
Qui peut savoir ce que les anciens empereurs avaient en tête quand ils ont fait construire ces routes?
Nietzsche mémorisa les noms des villes signalées sur la carte.
Je dois m'assurer que tout le monde dans ces régions saura que Jagang a perdu la guerre. Nous ferons de nouveau appel à vous, capitaine. Avant de débarquer du rang d'honneur, je vous remettrai une proclamation que vous diffuserez dans tous ces ports. Les royaumes doivent s'unir sous l'autorité d'un seul chef, même s'ils conserveront leur culture et leur souveraineté, tant qu'ils respecteront les règles communes.
Un beau projet, dit Élie. Si tout le monde y souscrivait. Mais je doute que vous obteniez l'unanimité.
C'est le but de notre mission. Convaincre les peuples.
Nietzsche eut un petit sourire.
Je peux être très persuasif, savez-vous. Et si ça ne suffit pas, l'armée de Dara viendra me prêter main forte.
Le capitaine et la magicienne sortirent de la salle et montèrent sur le pont d'où ils pourraient observer le labeur des matelots. Comme d'habitude, les cinq types torse nus se prélassaient un peu à l'écart. L'un d'eux osa s'adresser à Nietzsche.
Tu viens t'amuser avec nous? Nous avons du temps.
Faites ce que vous voulez jusqu'à ce que nous ayons atteint les récifs,
lâcha le capitaine.
Mais fichez la paix à la dame.
Si je jouais avec eux, ajouta Nietzsche, je doute qu'ils trouveraient ça drôle.
Les types ricanèrent, ce qui agaça prodigieusement la magicienne.
Capitaine, pourquoi ne fichent-ils rien? Ce sont des parasites.
Non, des pêcheurs de perles souhaits. Ils en sont à leur troisième traversée et je n'ai pas à me plaindre du résultat. Ces hommes s'appellent Sol, Elgin, Rom, Pel et Buna. Pour le moment, ils se dorment au soleil, mais quand nous aurons atteint les récifs, ils gagneront largement leur solde.